Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cet évangile, mes chers amis, est aussi délicat que la formule du Seigneur est lapidaire. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est peut-être un passage fondateur sur notre rôle dans la société et sur l'ordre des choses. Le Seigneur veut nous montrer l'importance de comprendre que l'homme est à la fois un être politique et religieux, et que les deux pouvoirs qui s'en dégagent sont distincts. Pouvoir spirituel, par l'action de Jésus, pour répandre le règne de Dieu, et le pouvoir temporel ou politique qui s'opère par les hommes. Les pouvoirs sont donc bien distincts, mais pour en comprendre l'ordre, il faut s'arrêter sur la phrase de notre Seigneur, de qui est la face de cette monnaie. C'est une question importante, car l'Évangile est adressé à chacun d'entre nous. La question subsidiaire que l'on pourrait poser est la suivante. De qui est la face de notre monnaie, c'est-à-dire de notre être? Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bossuet nous dit « Ô Dieu, vous nous avez fait à votre image et ressemblance. Vous êtes en nous, ô Seigneur, comme dans votre temple, votre saint nom a été invoqué sur nous. Ô Père, Fils et Saint-Esprit, nous avons été baptisés en votre nom. Votre empreinte est sur nous. Votre image que vous aviez mise au-dedans de nous en nous créant y a été réparée par le baptême. Âme raisonnable, faite à l'image de Dieu, chrétien renouvelé par sa grâce, reconnais ton auteur et à l'image que tu portes, apprends à qui tu es. » Cette belle citation de Bossuet nous donne une orientation dans notre manière d'agir dans la société. Dieu et César, et non pas Dieu contre César ou César contre Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous dépendons de Dieu. C'est dans cette dépendance qu'il nous faut agir dans la société que Dieu nous confie. On peut comprendre ainsi qu'il est juste de payer un impôt dans la mesure où celui-ci répond au bien commun, comme il est juste de soutenir les œuvres de Dieu à travers les œuvres de miséricorde, les quêtes, les offrandes aux communautés qui vous donnent des prêtres. Il y a aussi un autre aspect, plus politique celui-là, c'est la cohérence avec laquelle nous défendons nos idées. Nos idées doivent s'affermir au service de la volonté de Dieu. Nous devons conduire l'homme vers son Créateur, avoir une conduite publique qui diffère d'une conduite privée et malhonnête. Saint Thomas d'Aquin, dans la Prima Pars, question 103, article 6, nous dit « Il faut considérer deux choses dans le gouvernement. Le plan de ce gouvernement qui n'est autre que la providence et l'exécution de ce plan. En ce qui concerne le plan du gouvernement divin, Dieu gouverne immédiatement toutes choses. Quant à l'exécution, Dieu gouverne par des intermédiaires. Lorsque le pape vous appelle à vous engager, y compris dans la sphère politique, c'est dans ce contexte d'intermédiaire afin de rendre visible et de réaliser la volonté divine pour le bien de tous. Le contexte d'aujourd'hui est difficile parce que d'un côté, nous avons parfois l'impression d'un rejet de Dieu qui peut aller jusqu'à la volonté de changer la loi naturelle. Regardez le gender, regardez le mariage pour tous. Ceci est démoniaque. Et d'un autre côté, il y a ceux qui ont des convictions, mais qui, je dirais, sont bizarres quand on les regarde. On a un peu l'impression qu'au-dessus du cou, il y a comme deux têtes qui se dégagent, une pour penser dans la vie privée et une autre pour penser dans la sphère publique, une sorte de monstre, mais que nous sommes parfois, nous aussi, dans nos mondanités, comme quand nous sommes mondains, on a parfois peur de dire ce que nous sommes, peur de reprendre avec charité notre voisin quand il parle contre le Seigneur. Eh bien, même quand nous sommes avec notre prochain, quand nous sommes en société, il nous faut aussi être chrétiens, mes amis. Il y a donc une troisième voie avec laquelle nous devons avancer sur le terrain, c'est notre fidélité à Dieu. Sans avoir peur de déplaire au monde. Pour ce faire, il faut être libre, mes chers amis, sans tomber dans le piège d'une fausse liberté. En effet, l'homme qui se croit plus libre en échappant à la loi morale perd en réalité sa liberté en devenant l'esclave de ses émotions et de ses passions. La vraie liberté, c'est celle qui suit le jugement de l'intelligence, qui est une faculté de l'âme et un don du Saint-Esprit. La vraie liberté suit le mouvement de l'intelligence, lui faisant prendre conscience de son vrai bien, de la voie de sa perfection. Sinon, au contraire, son action sera déterminée par tous les caprices de sa sensibilité, par tous les entraînements de l'émotion ou de la passion. Pour ce faire, il faut accepter de mettre dans notre vie une certaine assaise, un effort renouvelé, non pour jouer au jansénisme ou au stoïcien, ce qui nous apporterait de l'obscurité, mais tout simplement en étant catholique, en étant de la religion, de la croix qui nous illumine, parce que c'est là où se trouve le Christ qui pose sur nous son sourire, car il nous a offert, mes amis, quelque chose de grand et de beau, la rédemption. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.